aurait 1200 personnes détenues à la maison d'arrêt de Seyss, un peu plus de 600 au centre de détention de Muret. Pour elles, la privation de liberté est leur lot. Le confinement, c'est tous les jours. Comment vivent-elles la menace du coronavirus? Quelle est la prise en charge sanitaire des prisonniers? On en parle tout de suite avec le docteur Marie-Hélène Moncani, responsable des soins psychiatriques dans ces deux établissements de Haute-Garonne. Bonjour docteur.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ces moments qu'on imagine difficiles. Alors certaines prisons françaises, ça a été le cas notamment à Béziers, ont été le théâtre ces derniers jours de violences. Est-ce que vous aussi vous craignez que la cocotte minute explose dans les prisons où vous intervenez ?
On a toujours cette crainte en arrière-fond, évidemment, puisqu'on sait que avant même que ça se produise dans les prisons dans notre région, ça s'est produit en Italie aussi, hein, qui malheureusement a vécu un peu les mêmes événements que nous, mais en avance sur nous. Depuis le début du confinement et de cette période de coronavirus, on a cette crainte-là, avec évidemment... des conditions d'incarcération qui, déjà avant même la problématique du coronavirus, n'étaient pas faciles, en particulier dans les maisons d'arrêt avec la surpopulation carcérale que vous connaissez, mais qui sont devenues extrêmement compliquées avec l'arrêt des parloirs, bien sûr, mais aussi l'arrêt des activités professionnelles, des formations, et donc un isolement qui est majoré pour les personnes détenues, qui nous fait craindre évidemment des conséquences comportementales et psychologiques. Et puis tout ça majoré également par la crainte du coronavirus, puisque les personnes détenues ont accès à l'information comme nous. Donc ces angoisses-là les gagnent aussi, évidemment.
Et oui, alors il faut bien préciser à ceux qui nous écoutent qu'effectivement le Covid-19 et la menace qu'il représente a dû modifier l'organisation en prison. Vous l'avez dit, les suspensions des parloirs, donc plus de visites, suspension également des activités. Et éventuellement des cours. Les promenades également ont été limitées.
Les promenades ont toujours lieu. Après, elles se font en plus petits groupes et avec le respect des gestes barrières, évidemment. Donc ça demande un gros travail d'accompagnement et d'organisation de la part des surveillants de l'administration pénitentiaire. Alors ça, c'est pour la maison d'arrêt. Pour le centre de détention, il y a encore une circulation possible des personnes détenues, puisque en centre de détention, les personnes sont plus libres de circuler. Là aussi, en respectant les gestes barrières, y compris pour la distribution, pour le quotidien, la distribution des repas, des traitements, etc. En espérant qu'on puisse maintenir ce minimum de circulation le plus longtemps possible.
Donc il faut bien comprendre que pour les personnes détenues, le Covid-19 a l'effet d'une seconde peine, puisqu'en fait c'est un isolement accru pour elles, hein, c'est ça qu'on comprend.
Exactement, c'est-à-dire que dans ce contexte anxiogène pour tous, par rapport à la maladie, il y a cet isolement majoré, l'inquiétude pour eux-mêmes et l'inquiétude pour leur famille aussi. Puisque même si il y a vraiment là aussi un travail qui a été fait du côté de l'administration pénitentiaire pour, par exemple, faciliter l'accès au téléphone, y compris pour les personnes qui avaient très peu de revenus, donc pour faciliter l'accès au téléphone auprès de leur famille, mais cela étant, elles ont quand même évidemment moins de nouvelles de leurs proches, en tout cas elles ne peuvent pas les voir, donc il y a aussi une inquiétude sur ce qu'il advient de leur famille et de leurs proches à l'extérieur.
Et cette inquiétude, ce climat anxiogène, comment est-ce que c'est vécu? Comment ça se traduit en prison? Est-ce qu'on peut craindre un surcroît de violence?
Alors, on essaie de faire en sorte que non. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, dans cette période de crise, si on doit y trouver un aspect positif, moi je crois vraiment le travail commun et en articulation très serrée qu'on arrive à faire entre les services de soins. Alors les soins somatiques, généraux, les soins psychiatriques et l'administration pénitentiaire pour essayer de faire en sorte de rassurer au maximum la population carcérale, de contenir ses inquiétudes. C'est-à-dire qu'on a maintenu évidemment les soins, alors les soins somatiques, ça va de soi en cette période de coronavirus, mais aussi les soins psychiatriques. On a maintenu une activité, même si évidemment elle est, on l'a organisée et ajustée en fonction du risque épidémique. Donc on a modifié nos organisations, mais les soignants de psychiatrie sont présents. On a en particulier renforcé la présence le week-end, notamment, avec la possibilité pour les détenus qui en ressentent le besoin d'avoir un entretien, d'être rassuré, d'avoir des informations éventuellement. Donc voilà, on essaie de travailler tous ensemble, tous les différents intervenants, à limiter les conséquences comportementales de cet isolement.
Limiter les conséquences. L'aumônier général des prisons, le père Penouette, évoquait la semaine dernière, c'était sur Radio Vatican, le risque d'une augmentation des suicides. Vous êtes psychiatre, docteur Moncani, c'est quelque chose que vous constatez aussi, à laquelle vous êtes vigilante?
Alors, de manière générale, le suicide en prison est une préoccupation majeure, hein, puisque vous savez que les personnes détenues se suicident 7 fois plus que la population générale. Donc, pour nous, c'est une préoccupation, et pour l'administration pénitentiaire d'ailleurs, hein, c'est une préoccupation du quotidien et très importante. Donc, on y est toujours extrêmement attentif. Mais en effet, on sait que l'isolement est un facteur de risque supplémentaire. Alors, pas d'ailleurs qu'en prison, hein. C'est-à-dire que nous, psychiatres, on a aussi une inquiétude sur les effets de l'isolement liés au confinement sur les troubles psychiatriques, en particulier le risque suicidaire. Donc, en prison, oui, on a cette inquiétude-là, d'une certaine manière, encore plus. Alors là aussi, on a une articulation qui, déjà, en temps normal, fonctionne assez bien, c'est-à-dire que les surveillants pénitentiaires sont formés à repérer les signes inquiétants ou à évaluer le risque suicidaire, et dès lors qu'il y a une inquiétude, ils nous signalent les personnes et on les reçoit très rapidement. Ça fait partie des urgences psychiatriques pour nous, le risque suicidaire. Et je suis responsable, vous l'avez dit, des deux services de consultation de psychiatrie au centre de détention et à la maison d'arrêt, mais aussi d'une unité d'hospitalisation pour les détenus en psychiatrie qui se situe à l'hôpital psychiatrique, hein, l'hôpital Marchand, et qui accueille les personnes qui ont besoin d'une hospitalisation en psychiatrie en urgence, et notamment, évidemment, les personnes très suicidaires. Et cette unité continue à fonctionner même en cette période de coronavirus, et même si on a là aussi adapté nos organisations pour limiter au maximum le risque épidémique.
Docteur Moncani, on parle beaucoup des EHPAD et du risque de propagation dans leurs établissements. On imagine que les prisons, que ce soit à Muret ou à Seyss, c'est aussi un lieu par essence confiné, un huis clos, avec un risque de propagation énorme. Est-ce qu'on a, c'est une bombe à retardement selon vous? Je crois qu'il y a un cas qui a été de coronavirus qui a été établi chez un détenu de Muret.
Oui, bah, c'est notre inquiétude là aussi depuis le début de cette épidémie. Hein. C'est-à-dire que on sait que effectivement c'est un environnement clos, bien sûr, que surtout il y a une promiscuité très importante, notamment là encore dans la maison d'arrêt, parce que dans le centre de détention c'est un peu moins vrai parce qu'il y a qu'un détenu par cellule. Déjà ça limite quand même la promiscuité, mais dans la maison d'arrêt on a une forte inquiétude sur la propagation, même si là encore la réaction a été rapide, hein, pour mettre en place les gestes barrières et prendre le minimum de risques possible, mais on a cette inquiétude, ce d'autant plus qu'on sait que l'état général des personnes détenues, globalement, statistiquement, est moins bon que celui de la population générale. C'est-à-dire qu'il y a plus de comorbidités.
En termes de santé
médicale, exactement. On sait qu'il y a des consommations, bah, notamment des addictions très importantes, des consommations de tabac très importantes, et que des pathologies cardiaques également. Donc on s'inquiète d'une part de la propagation du virus et d'autre part des conséquences sur des personnes qui sont pour certaines fragilisées du fait de ces comorbidités médicales et pour lesquelles l'accès aux soins est rendu un peu plus compliqué du fait de leur statut de personne détenue. Alors là aussi je crois qu'il faut vraiment... rendre hommage.
Alors, on va y venir. On va tout de même, oui, rendre hommage, mais surtout, venons-en, comment ça se passe? Une personne détenue commence à tousser, commence à être malade. Qu'est-ce qu'il advient d'elle? Quelle est sa prise en charge?
Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, rendre hommage aux équipes de médecine générale, hein, qui interviennent dans les prisons, là aussi de façon régulière et habituelle, mais qui là ont décuplé leur énergie pour prendre en charge très rapidement. Donc dès qu'il y a une suspicion cas de Covid, il y a évidemment un isolement, un examen clinique, un dépistage. Au début, surtout, il y a eu des dépistages, mais vous savez que le dépistage n'est pas non plus d'une fiabilité absolue, hein, donc on se fie beaucoup à la clinique. Et puis, dès lors, et c'est là qu'il y a eu une articulation importante entre les services à l'intérieur de la prison, les services d'hospitalisation pour les personnes détenues qui se trouvent à l'hôpital Rangueil, le HSI, et les services de médecine de façon générale, notamment le service des maladies infectieuses et tropicales, qui sont spécialisés, hein, dans ces prises en charge du coronavirus, pour faire en sorte que les personnes détenues qui présentent des facteurs de gravité ou des terrains à risque, comme pour les personnes à l'extérieur, puissent être hospitalisées rapidement sans qu'il y ait de frein du fait de leur statut de personne détenue. L'objectif, c'est qu'ils puissent être soignés comme la population générale. Voilà. Ça nécessite un tout petit peu plus d'articulation. Pardon, excusez-moi, je vous ai pas entendu.
On vous entend moins bien. Ah. Oui, c'était une crainte. Évidemment, il fallait lever cette crainte, il fallait lever cet écueil qu'elle ne soit pas traitée comme tout le monde.
Nous, on y travaille toute l'année. C'est vraiment un objectif pour nous principal, que les personnes détenues aient accès à des soins de la même qualité que la population générale et qu'elles ne soient pas défavorisées par rapport à leur statut. Donc là, a fortiori, oui, on y travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si, évidemment, c'est un peu plus compliqué parce que quand elles sortent en extraction médicale, il y a une escorte pénitentiaire. Enfin voilà, ça mobilise des moyens de sécurité.
Docteur, il y a des personnes dont on n'a pas parlé, c'est le personnel pénitentiaire, puisqu'effectivement, vivent ensemble détenus et personnel surveillant. Eux aussi, ils imaginent qu'ils manifestent des craintes. Vous avez évoqué les gestes barrières qui étaient pris pour les personnes détenues. Quid des personnels pénitentiaires? Sont-ils dotés de masques?
Alors ça a été un enjeu très fort ces dernières semaines, comme au départ d'ailleurs pour le personnel soignant. Cet enjeu des masques a été pour tous. Mais ceci dit, les personnels soignants ont été plus rapidement dotés de masques. Et là, au niveau pénitentiaire, j'ai cru comprendre qu'au niveau national, ils avaient obtenu l'accord de pouvoir être dotés de masques. En tout cas, pour nos surveillants qui travaillent, les surveillants pénitentiaires qui travaillent dans nos services de psychiatrie en prison, depuis hier, ils sont dotés de masques par l'administration pénitentiaire.
Donc ça, c'est une première victoire.
Oui.
En tout cas, une mesure efficace qu'on peut imaginer efficace et qui les protège. Parce qu'il faut quand même rappeler que les personnes surveillantes, elles, travaillent en prison, mais en sortent tous les jours et en reviennent. Donc il y a un va-et-vient de potentiel de virus.
Exactement. C'est-à-dire que le masque chirurgical, ça protège les personnes qui le portent, ça protège aussi les autres autour. Donc pour nous, c'était une mesure fondamentale pour éviter la propagation du virus au sein de la prison.
Un grand merci, docteur Marie-Hélène Moncagny, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes responsable des soins psychiatriques dans les établissements dans le centre de détention de Muret, également à la maison d'arrêt de Seyss. On a bien compris que votre satisfaction de voir les différents services pénitentiaires et soins se prendre le problème à bras le corps, et même si l'isolement est accru, tout est fait pour que les soins aux personnes détenues soient les mêmes que ceux des personnes à l'extérieur. Et puis j'adresse un message à tous ceux qui nous écoutent, qui auraient un proche incarcéré. Radio Présence vous donne la possibilité, c'est maigre consolation, mais c'est déjà ça, d'adresser un message, de dédicacer une chanson. Vous pouvez le faire en vous adressant à message@radioprésence.com. Un immense merci, docteur, pour vos explications.
Merci beaucoup à vous.